Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Nous sommes vendredi, c'est la fête de Sainte Agathe. Alors nous avons un projet, le projet de quitter Mexico pour une autre ville, sorte d'aller-retour. Dans la fraternité où nous vivons, il y a un prêtre qui insiste pour que nous nous rendions à Puebla. Puebla est une ville très connue au Mexique, ça s'appelle Puebla de Los Angeles. Alors nous organisons et nous partons de Mexico pour Puebla. Nous prenons l'autobus à l'aéroport. Alors ce sera quand même un long trajet et c'est tout un processus pour l'achat des billets. Alors on ne peut pas acheter son billet comme cela avant d'entrer. Alors il faut aller à un comptoir et là on nous donne un autre billet. On vérifie même nos passeports pour la sécurité. On vérifie nos bagages. Et avant de monter dans l'autobus, eh bien, on nous donne un petit sac avec une boisson, un sandwich, des biscuits. C'est extraordinaire, hein? Alors, on s'occupe de nous. Ce serait bien qu'ici, au Québec, on ait la même délicatesse, peut-être que... Ah, bon, c'est sûr que le prix peut-être augmenterait, mais j'ai trouvé cela intéressant parce que c'est vrai qu'à la dernière minute, on n'a pas toujours le temps de pouvoir prendre des choses, alors on a peu de choses. Mais là, non, on nous a donné ce qu'on avait besoin pour le trajet. Donc, on quitte Mexico pour Puebla. C'est en hauteur, comme je vous le dis, on voit toujours ces montagnes. Et on part. Après une heure de trajet, crevaison du côté droit. Alors, on s'arrête. Et là, c'est une première dans ma vie. Ça ne m'est jamais arrivé que d'être dans un autobus et d'avoir une crevaison comme cela. On appelle d'autres autobus, d'autres personnes pour nous prendre et ça se fait quand même assez rapidement. On ne restera pas longtemps comme cela à ne pas bouger. Tout de suite, un autre autobus arrive et on continue la route. Comme je vous le dis, les paysages sont beaux. On est un petit peu en retrait des grandes villes, des méga-cités. Alors on voit un peu la campagne, on voit quelques animaux, ça fait du bien. Ça nous permet de penser qu'on peut respirer autrement qu'à Mexico, puisqu'on est un petit peu affecté par la pollution là, depuis les derniers jours. Les paysages sont tellement beaux que nous apercevons, en approchant de Puebla, deux magnifiques volcans. Avec leur neige éternelle. Mais c'est magnifique. Il y en a un qui dort, l'autre qui est réveillé. Alors il y en a un qui est encore en activité, on voit la fumée qui sort du cratère. C'est vraiment impressionnant, c'est saisissant comme paysage. On voit bien que la Terre est toujours en activité, toujours en mouvement. Justement, récemment, je lisais la semaine dernière que un de ces volcans, je pense, en tout cas dans la région de Puebla, je crois que c'est sûrement celui qui fume, eh bien il a craché de la cendre de manière très très importante, alerte 2. Alors ces nuages de cendres ont envahi la région de Puebla. Vous imaginez les difficultés, les problèmes qui arrivent dans de telles situations. Donc c'est la réalité aussi d'une partie du Mexique, c'est une terre qui, bon, c'est une terre qui est encore en activité et un peu partout dans le monde, nous le voyons, il y a de ces volcans un peu partout qui continuent d'agir et de cracher leurs cendres. les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Les poules, encore les poules. Cette fois-ci, elles gambadaient au-dessus de leur tête. Mais comment diable avaient-elles pu sortir de leur enclos? Petit Jean n'avait-il pas rafistolé leur prison? Elles avaient dû jouer de leur bec et de leurs pattes pour s'affranchir à nouveau. Enfin, elles étaient libres d'exiger de l'eau. Tout d'un coup, Petit Jean se sentit lourd, très lourd. Dans le fond de cette nuit au rêve étrange, il se demandait déjà comment le jour allait poindre. Tout près, la dame de la montagne se mit à redire à voix haute les fameuses paroles de la veille. « Nuit noire, morte l'étoile. » Petit Jean se leva, irrité, presque bourru, et jeta le seau plusieurs fois dans le puits pour abreuver les poules et la dame de la montagne. Pendant qu'il l'aidait à boire, elle ouvrit lentement ses paupières aux yeux morts, et le cherchant de son regard aveugle, elle lui dit « Tu seras mes yeux. Je serai tes yeux, avait-il répété. Petit Jean était debout. Regardant partout, il se mit à parler de reconstruction, d'abattage d'arbres, de murs à dresser et d'un toit pour couvrir la maison. La dame de la montagne l'écoutait comme si elle le voyait. Poursuivant l'élaboration de ses plans, il imaginait le nouvel intérieur de la chaumière, l'emplacement du foyer, la disposition des meubles, la chambre pour dormir. Il se sentait prêt à tous ces travaux dont il serait le maître d'œuvre quand subitement la dame de la montagne l'interrompit.
« Si j'ai accepté de vivre, Jean, ce n'est pas pour rester ici. »
Petit Jean resta bouche bée. Elle ajouta
« Nuit noire vient d'être traversée, Jean. Je viens de lutter avec toutes ces nuits, autant pour mourir que pour vivre. Je suis moi, tes moutons jumeaux engendrés par la brebis. La vie m'a gardé. La vie m'a donné son coup de patte. Tu seras mes yeux. »
Il écoutait attentivement. Comprenait-il ce qu'il entendait ?
« Je dois descendre, » dit-elle.
« Descendre où ? » fit-il.
« Je dois descendre. »
Petit Jean s'était vite mis au travail. Péniblement, il avait réussi à la soulever pour la remonter sur le plancher des décombres. Sans force et toute courbée, la dame de la montagne s'était laissée mener comme un enfant, à qui on a bandé les yeux pour jouer à l'aveugle. Petit Jean savait bien qu'elle ne pourrait aller loin ainsi. Il étendit doucement sur l'herbe, un peu à l'écart de la chaumière en ruine. On eût dit que les poules l'avaient reconnue. En effet, elles s'étaient mises à caqueter à nouveau, alors que la dame de la montagne ne cessait de le répéter.
« Je suis là, je suis là !»
Petit Jean souriait. Quelle scène avait-il sous les yeux ? La journée s'annonçait belle. Le brouillard s'était dissipé sur la montagne pointue, mais recouvrait toujours l'impossible. Les oiseaux chantaient encore et les papillons voltigeaient de leur danse habituelle. Petit Jean était aux prises, avec bien des interrogations. Elle voulait descendre, mais pour aller où? Et puis, il fallait trouver le moyen de l'amener, où elle voudrait aller. Il résolut donc à confectionner un grabat à l'aide de branchages, de broches et de cordes. Il ne voyait pas d'autre solution. Il serait donc ses yeux, comme elle le lui avait dit. Tout en attachant les branchages, il vit de loin son petit village d'en bas, comme il venait de changer lui aussi, avec la flèche du clocher qui ne brillait plus, foudroyé par l'orage. Ayant terminé le grabat, Petit Jean risqua ces mots. « Où allons-nous ? »
« Nous descendrons. »«
Où descendons-nous ? » Elle garda le silence. Petit Jean s'imagina donc en esprit cette descente de la dame de la montagne au petit village.
tout joyeux, lui dit « Nous descendons au village, le mien. Tu verras comment les gens viendront t'accueillir en grande pompe. Tu les connais tous, n'est-ce pas ?»
La dame de la montagne s'était raidie brusquement. Dans son exubérance, Petit Jean poursuivit
« C'est vrai ? Tous ces archers qui, comme moi, sont venus quêter ta bonté, ton courage, ce sera la fête. Tu seras avec eux désormais. Oui, avec tout le village. »
Euphorique, Petit Jean se voyait déjà au pied de la montagne pointue, accueilli à bras ouverts comme un héros, avec l'héroïne admirée de tout le monde. Il se mit à virevolter autour d'elle. Mais la dame de la montagne restait silencieuse. Elle se laissa coucher sur son lit de branchage, et soupirant, elle reprit ses mots.
« Morte l'étoile !»
tout en fermant ses paupières aux yeux blancs. Petit Jean commença la descente. Il se sentait fort, comme un monarque, traînant derrière lui sa gloire future. Oubliant ce funeste décor et le laissant aux insignifiantes poules qui caquetaient toujours. Le curé avait fait arrêter brusquement les travaux de réfection du clocher de la petite église Sant'Antonio. Une mauvaise nouvelle s'était répandue, sanglant, et avait couru sur toutes les lèvres. Le malheur semblait s'être accroché comme une sangsue à la peau des gens. Cette mort inattendue les avait tous surpris, et de mauvaises langues débitaient de mauvais sorts. Cette fois-ci, avec rancœur, on avait tourné les yeux vers l'impossible pour la défier ou l'accuser de quelque chose. L'absence de lumière, ces derniers jours, sur la montagne pointue, leur faisait croire que la malédiction était tombée sur eux. Cet événement, donc, avait informé tout le petit village de l'absence de Petit Jean, qui avait quitté ses moutons pour se rendre à la montagne pointue, là où l'étoile ne brillait plus. Les prétextes seraient bons désormais pour l'accuser d'avoir déserté et manqué à ses responsabilités. « On ne laisse jamais des moutons », colportait-il. Un étrange sentiment de colère courait dans les ruelles du petit village, où l'on attendait de pied ferme le retour de l'ingrat Petit Jean. Soudain, quelques gamins crièrent sur la place publique qu'ils avaient repéré au pied de la montagne pointue Petit Jean qui descendait.
« Nous l'avons vu !» criait-il. « Il traîne quelqu'un derrière lui !»
Comme le feu à la mèche, ce cri alerta tout le village. En un rien de temps, une foule s'assembla sur la place publique près de la fontaine. Des jeunes, des vieux, des gens de toutes conditions allaient se liguer pour affronter Petit Jean. Et les gamins ne cessaient de dire à tout le monde qu'il traînait derrière lui quelqu'un.
« Il traîne quelqu'un »
répétait-il.
« Mais qui ?»
demandaient les autres. Révoltés, ils se lancèrent avec des bâtons à la rencontre de Petit Jean, précédés par le détachement de chiens furieux ouvrant leur chasse du côté de la clairière. Clarisse la folle s'était soudainement agitée hors de sa cabane. Elle faisait les 100 pas tout près de l'église Sant'Antonio. Le curé commença à s'inquiéter. Depuis l'ouragan, elle était demeurée dans un état de grande nervosité. Brusquement, elle partit en courant, elle aussi, en direction de la clairière, suivie du curé tout à fait intrigué. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron. Thank you.